Chapitre 5. Séparation. Les secrets sont rarement trahis ou découverts de la manière dont nous le redoutions. La crainte nous fait toujours appréhender quelques terribles scènes dramatiques qui se présentent à notre esprit malgré les plus fortes probabilités contraires. Et tandis que pendant toute une année, Maggie avait porté le fardeau de son secret, la possibilité d'une découverte s'était constamment présentée sous la forme d'une rencontre soudaine avec son père ou avec Tom pendant sa promenade avec Philippe dans les fonds rouges. Elle sentait bien que ce n'était pas un événement des plus probables, mais c'était la scène qui symbolisait le plus complètement ses frayeurs. Les légères suggestions, amenées indirectement par des coïncidences en apparence banales, sont souvent les causes qui occasionnent le fait redouté, mais ne sont pas le champ où notre imagination s'exerce. Une des personnes qui effrayait certainement le moins Maggie était sa tante Paulette, sur laquelle, puisqu'elle ne demeurait pas à St. Ogg's, et qu'elle n'avait ni les yeux clairvoyants ni le caractère prompt, il eût été tout à fait fantastique de s'arrêter plutôt que sur tante Glegg. Et pourtant, la voix fatale, le conducteur de la foudre, ne fut autre que la tante Paulette. Elle ne demeurait pas à St. Ogg's, mais la route des Pins de Garum passait près des fonds rouges, du côté opposé à celui par où Maggie y entrait. Le lendemain de la dernière entrevue de Maggie avec Philippe était un dimanche, où M. Paulette devait assister en chapeau garni de crêpes et en écharpe de deuil à des funérailles à l'église de St. Ogg's. Madame Paulette saisit cette occasion pour dîner chez sa sœur Glegg et prendre le thé chez la pauvre sœur Taleva. Le dimanche était le seul jour de la semaine où Tom était à la maison l'après-midi. Et ce jour-là, les idées plus gaies qu'il avait depuis quelque temps s'étaient fait jour dans une causerie plus franchement ouverte qu'à l'ordinaire avec son père. Et dans l'invitation de « Viens Maggie, viens aussi toi » quand il sortit au jardin avec sa mère pour voir le progrès des cerisiers. Il était plus satisfait de Maggie depuis qu'elle était moins singulière et moins ascétique. Même, il devenait presque fier d'elle. Plusieurs personnes avaient remarqué, et il le savait, que sa sœur était une très belle fille. Aujourd'hui, il y avait un éclat particulier sur son visage, dû en réalité à une animation intérieure qui renfermait autant de doutes et de peines que de plaisirs. Mais cela pouvait passer pour un signe de bonheur. « Vous avez très bonne mine, ma chère, » dit tante Paulette en secouant tristement la tête, comme elles étaient assises autour de la table à thé. « Je n'aurais jamais cru, Bessie, que votre fille pût prendre aussi bon air. Mais il faut porter du rose, ma chère. Cette robe bleue que vous a donnée votre tante Glegg vous rend aussi jaune qu'un souci. Jane n'a jamais eu le goût. Pourquoi ne portez-vous pas cette robe qui vient de moi ? Elle est si jolie et si élégante, ma tante. Je crois qu'elle est trop éclatante pour moi, du moins pour les autres vêtements que je dois porter avec. » Certainement, ce serait inconvenant s'il n'était pas bien connu que vous avez dans ceux qui vous tiennent de près des personnes qui sont à même de vous donner de telles choses quand elles ne s'en servent plus. Il va sans dire que je dois donner à ma propre nièce des habillements de temps à autre, de ces choses que j'achète chaque année et que je n'use jamais entièrement. Et quant à Lucy, on ne peut rien lui donner, car elle a tout de premier choix. Sœur Dean peut bien tenir la tête haute, quoiqu'elle paraisse terriblement jaune, la pauvre créature. Je crains que cette maladie du foie ne l'emporte. C'est ce que ce nouveau pasteur, le docteur Ken, a dit dans son sermon de funérailles aujourd'hui. Ah, c'est un admirable prédicateur, sous tous les rapports, n'est-ce pas, Sophie ? Dit Madame Taleva. Oui, Lucy avait un si joli col en ce jour de bénédiction, continua Madame Paulette, avec les yeux fixés d'un air de méditation, que je ne sais si j'en ai un aussi beau. Il faudra que je cherche mon meilleur pour l'égaler. Miss Lucy est appelée la belle de St. Ogg's, et c'est un mot curieux, observa M. Paulette, sur lequel les mystères de l'étymologie pesaient souvent d'une manière très oppressive. Bast, dit M. Taleva, jaloux pour Maggie. C'est un petit bout de femme qui n'a pas de tournure. Mais les belles plumes font les beaux oiseaux. Je ne vois rien à tant admirer chez ces femmes en miniature. Elles font un effet ridicule à côté des hommes, hors de proportion. Quand j'ai choisi ma femme, je l'ai prise d'une taille convenable, ni trop petite ni trop grande. La pauvre femme, avec sa beauté fanée, sourit complaisamment. « Mais les hommes ne sont pas tous grands, » dit l'oncle Paulette. non sans quelque attention pour lui-même. Un jeune gaillard peut avoir bonne mine sans mesurer 6 pieds. Témoin maître Tom qui est là. Ah, c'est bien insignifiant de parler de petite ou de grande taille. Chacun peut considérer comme une bénédiction d'avoir seulement la taille régulière, dit la tante Poulet. Quand on voit ce fils contrefait du procureur Wakeham, je l'ai vu aujourd'hui à l'église. Mon Dieu, quand on pense à la fortune qu'il aura, et on dit qu'il est très original et solitaire, qu'il n'aime guère la société. Cela ne m'étonnerait pas qu'il perdît l'esprit, car nous ne venons jamais le long de la route que nous ne le voyons sortir avec difficulté des arbres et des broussailles des fonds rouges. Ce fait, bien établi par Madame Poulet, qui se rappelait avoir vu 2 fois Philippe à l'endroit indiqué, produisit sur Maggie d'autant plus d'effet que Tom était assis en face d'elle, et elle était dans une grande anxiété, désirant paraître indifférente. Au nom de Philippe, elle avait rougi, et cette rougeur augmentait à chaque instant, parce qu'elle en avait conscience, jusqu'à ce que la mention des fonds rouges lui fît éprouver la même émotion que si tout son secret était trahi. Elle n'osa pas même soulever sa cuillère à thé, de peur de montrer son tremblement. Elle restait les mains serrées sous la table, n'osant regarder autour d'elle. Heureusement, son père était assis du même côté qu'elle, plus loin que son oncle Poulet, et ne pouvait voir son visage sans se pencher en avant. La voix de sa mère lui apporta le premier soulagement en détournant la conversation. Car Madame Taleva était toujours alarmée quand le nom de Wakeham était prononcé devant son mari. Peu à peu, Maggie se remit assez pour lever les yeux. Ils rencontrèrent ceux de Tom, mais il détourna aussitôt la tête, et ce soir-là, elle se coucha dans le doute de savoir s'il avait eu quelques soupçons au sujet de sa confusion. Peut-être que non. Peut-être penserait-il que c'était seulement son effroi d'entendre mentionner le nom de Wakeham devant son père. C'était l'interprétation que sa mère en avait tirée. Pour son père, Wakeham était comme une plaie défigurante qu'il était obligé de supporter, mais dont la connaissance qu'en montraient les autres l'exaspérait. Et pour tout ce qui concernait son père, aucun degré de sensibilité chez elle ne pouvait surprendre, c'est du moins ce que pensait Maggie. Mais Tom était trop clairvoyant pour se contenter d'une semblable interprétation. Il avait très bien compris qu'il existait quelque chose de plus que de l'inquiétude pour son père dans l'excessive confusion de Maggie. En cherchant à se rappeler tous les détails qui pourraient donner corps à ses soupçons, il se souvint d'avoir entendu dernièrement sa mère gronder Maggie de se promener au fond rouge quand le terrain était mouillé et d'être rentré avec des souliers salis de boue rouge. Cependant, Tom, conservant toute son ancienne répulsion pour la difformité de Philippe, ne pouvait attribuer à sa sœur la probabilité d'un sentiment autre qu'un intérêt d'amitié pour ce malheureux, si différent du commun des hommes. La nature de Tom avait une espèce de répugnance superstitieuse pour tout ce qui était exceptionnel. Un amour pour un homme contrefait serait odieux chez toute femme, intolérable chez une sœur. Mais si elle avait entretenu quelque espèce de relation que ce fût avec Philippe, il fallait immédiatement y mettre un terme. Elle froissait les sentiments les plus vifs de son père et désobéissait aux ordres les plus formels de son frère, outre qu'elle se compromettait par des entrevues secrètes. Il quitta la maison le lendemain matin dans cet état d'esprit en éveil qui fait du cours le plus ordinaire des choses des coïncidences précises. L'après-midi, vers les 3 heures, Tom se tenait sur le quai, causant avec Bob Jakin de la probabilité que le bon vaisseau l'Adélaïde revint dans 1 jour ou 2, avec des résultats d'une haute importance pour tous les deux. « Eh !» dit Bob, en parenthèse, comme il regardait les champs de l'autre côté de la rivière. « Voilà ce jeune bossu de Wakeham. Je le reconnais, lui ou son épaule, d'aussi loin que je puis le voir. Je l'aperçois toujours de ce côté de la rivière. » Une pensée soudaine traversa l'esprit de Tom. « Il faut que je vous quitte, Bob. J'ai quelque chose à surveiller. » Et il se précipita vers le magasin, où il donna ordre à quelqu'un de prendre sa place. Il était obligé de retourner chez lui pour une affaire impérieuse. Le pas le plus rapide et le chemin le plus court l'amenèrent à la porte, et il s'arrêtait pour l'ouvrir tranquillement, afin d'entrer dans la maison avec l'air d'un calme parfait, lorsque Maggie sortit par la porte en face de lui, ayant son châle et son chapeau. Sa conjecture était justifiée, et il l'attendit à l'entrée de la cour. Elle tressaillit violemment quand elle le vit. « Tom, comment se fait-il que tu viennes à la maison? Y a-t-il quelque chose ?» Maggie parlait à voix basse et tremblante. « Je viens pour aller avec toi au fond rouge y trouver Philip Wakeham, » dit Tom. Le pli vertical de son front, devenu habituel chez lui, encore plus marqué qu'à l'ordinaire. Maggie parut anéantie, pâle et froide. Donc, par quelque moyen, Tom connaissait tout. Enfin, elle dit « Je n'y vais pas » et se retourna. « Si, tu y viendras, mais je veux te parler avant. Où est mon père ?»« Sorti, à cheval. » « Et ma mère ?»« Occupée, je crois, à la basse-cour. » Je puis donc entrer sans qu'elle me voie. Ils entrèrent ensemble, et Tom, ouvrant le parloir, dit à Maggie « Viens ici !» Elle obéit et ferma la porte derrière elle. À présent, Maggie, dis-moi à l'instant tout ce qui s'est passé entre toi et Philip Wakeham. « Mon père sait-il quelque chose ?» dit Maggie, encore tremblante. « Non, dit Tom, indigné. Mais il le saura, si tu essaies d'employer plus longtemps la tromperie à mon égard. » « Je n'ai point l'intention de tromper, » dit Maggie, rougissant de ressentiment, en entendant appliquer ce mot à sa conduite. « Dis-moi toute la vérité, alors. »« Peut-être la sais-tu. » « Que je la sache ou non, n'importe. Dis-moi seulement ce qui s'est passé, sinon mon père saura tout. »« Je le dirai par égard pour mon père, alors. » « Oui, il te sied bien de professer des égards pour ton père quand tu as méprisé ses sentiments les plus intimes. » « Tu ne fais jamais de faute, Tom ?» dit Maggie. « Non, pas consciencieusement, » dit Tom, avec une orgueilleuse sincérité. « Mais je n'ai rien d'autre à te dire que ceci. Dis-moi ce qui s'est passé entre toi et Philippe. Quand l'as-tu rencontré pour la première fois dans les fonds rouges ?»« Il y a un an, » dit Maggie tranquillement. La sévérité de Tom lui donnait un certain fond de bravade et repoussait le sentiment de ses propres torts. « Tu n'as pas besoin de me demander autre chose. Nous nous sommes vus amicalement pendant une année. Nous nous sommes rencontrés et promenés ensemble souvent. Il m'a prêté des livres. »« Est-ce tout ?» dit Tom, la regardant en face, en fronçant le sourcil. Maggie s'arrêta un moment, puis, déterminée à ôter à son frère le droit de l'accuser de tromperie, elle lui dit avec fierté « Non, pas tout à fait. Samedi dernier, il m'a dit qu'il m'aimait. Je ne le supposais pas avant. Je pensais seulement à lui comme à un ancien ami. « Et tu l'as encouragé, » dit Tom, avec une expression de dégoût. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Tom resta quelques moments silencieux, regardant le sol avec colère, les poings serrés dans ses poches. Enfin, il leva les yeux et dit froidement « Alors, maintenant, Maggie, tu n'as que deux manières d'agir. Ou tu vas me jurer solennellement, la main sur la Bible de mon père, que tu ne diras jamais aucun mot en particulier à Philip Wakeham, et n'auras jamais d'autre entretien avec lui, ou tu refuses, et je dis tout à mon père. Et lorsque, dès ce mois, grâce à mon travail, il pourrait être encore une fois heureux, toi, sa fille, tu l'accables de nouveau par la pensée que tu es une fille désobéissante et trompeuse, compromettant son propre honneur par des entrevues clandestines avec le fils de l'homme qui a aidé à le ruiner. Choisis. » Tom termina ses paroles en allant avec une froide décision prendre la grosse Bible qu'il ouvrit à la première feuille où se trouvait la page manuscrite. C'était pour Maggie une alternative écrasante. « Tom, dit-elle, passant de la fierté à la supplication, ne me demande pas cela. Je te promets de renoncer à toute relation avec Philippe si tu me laisses le voir encore une seule fois, ou seulement lui écrire pour lui tout expliquer, d'y renoncer aussi longtemps que cela pourrait faire quelque peine à mon père. J'éprouve aussi quelque chose pour Philippe. Il n'est pas heureux. Je ne tiens pas à savoir ce que tu éprouves. J'ai dit exactement ce que je voulais. Choisis, et promptement, dans la crainte que ma mère ne rentre. Si je te donne ma parole, ce sera un engagement aussi fort pour moi que de mettre la main sur la Bible. Je n'ai pas besoin de cela pour me lier. Fais ce que je demande. Je ne puis me fier à toi, Maggie. Il n'y a point de conscience en toi. met la main sur la Bible et dit « Je renonce à toute conversation ou relation particulière avec Philip Wakeham dès ce jour. Autrement, tu nous apporteras la honte à tous et la douleur à mon père. Et à quoi servirait-il que je me donne autant de peine et que je me refuse toute chose dans le but de payer ses dettes, si tu dois lui faire connaître la fureur et le chagrin, juste au moment où il pourrait être à l'aise et relever la tête ?»« Oh, Tom, les dettes seront-elles bientôt payées ?» dit Maggie, en joignant les mains dans un soudain élan de joie, au milieu de sa douleur. « Oui, si les choses tournent comme je l'espère. » Mais, ajouta-t-il la voix tremblante d'indignation, « tandis que je faisais tous mes efforts et travaillais pour que mon père pût avoir quelque repos d'esprit avant de mourir, tu as fait tout ce que tu pouvais pour tout détruire. » Maggie éprouva un profond sentiment de compunction. Pendant un moment, son esprit cessa de lutter contre ce qu'elle trouvait si cruel et déraisonnable, et se blâmant elle-même, elle excusait son frère. « Tom, dit-elle à voix basse, j'ai eu tort, mais j'étais si isolée, et puis si fâchée pour Philippe. Et je pense que l'inimitié et la haine sont mauvaises. » « Ça ne veut rien dire, dit Tom. Ton devoir était assez clair. Ne me dis plus rien, mais promets dans les termes que je t'ai dictés. Il faut que je parle à Philippe encore une fois. Tu vas venir avec moi lui parler. Je te donne ma parole de ne pas le rencontrer ni lui écrire sans que tu le saches. C'est la seule chose que je veuille dire. J'en mettrai la main sur la Bible, si tu veux. Dis-le donc. » Maggie posa la main sur la page manuscrite et répéta la promesse. Tom ferma le livre et dit « Allons à présent. » Pas un mot ne fut prononcé pendant le trajet. Maggie souffrait, par anticipation, de ce que Philippe allait éprouver, et craignait les paroles irritantes qui sortiraient de la bouche de Tom. Mais elle sentait qu'il était inutile de tenter autre chose que de la soumission. Tom avait un terrible empire sur sa conscience et lui causait un profond effroi. Elle gémissait de ce que les accusations dont il accablait sa conduite étaient fondées, et cependant son âme se révoltait contre ce jugement injuste en ce qu'il n'était pas complet. Lui, pendant ce temps, sentait la violence de son indignation se tourner contre Philippe. Il ne se doutait pas de combien l'ancienne répulsion d'enfance, le simple orgueil et l'animosité personnelle se mêlaient à l'amertume des paroles par lesquelles il comptait remplir son devoir de fils et de frère. Tom, n'étant point porté à examiner subtilement les motifs qui le faisaient agir, était parfaitement persuadé que ses motifs à lui étaient bons, ainsi que ses actions. Autrement, il serait sans influence sur lui. La seule espérance de Maggie était que quelque chose eût pu, pour la première fois, empêcher Philippe de venir. Alors, il y aurait un délai. Alors, elle pourrait obtenir de Tom la permission de lui écrire. Les battements de son cœur redoublèrent quand elle se trouva sous les pins d'Écosse. C'était le dernier instant de doute. Philippe la rencontrait toujours dès qu'elle les avait dépassés. Ils traversèrent un espace de verdure plus ouvert et entrèrent dans l'étroit sentier des buissons près de la colline. Encore un détour, et ils se trouvèrent si près de lui que Tom et Philippe s'arrêtèrent soudainement à un pas de distance. Il y eut un moment de silence pendant lequel Philippe fixa un regard interrogateur sur le visage de Maggie. Il y lut une réponse dans ses lèvres pâles et dans la terrible fixité de ses grands yeux. Car, son imagination s'élançant toujours au-delà de l'impression du moment, Maggie voyait déjà son grand et vigoureux frère saisir le faible Philippe, le terrasser et le fouler aux pieds. « Appelez-vous cela le rôle d'un homme, et d'un homme comme il faut, monsieur ?» dit Tom d'une voix dure et méprisante, dès que les yeux de Philippe se tournèrent de son côté. « Que voulez-vous dire ?» répondit celui-ci avec hauteur. « Ce que je veux dire. Tenez-vous à distance, de peur que je ne porte les mains sur vous et que je ne vous montre ce que je veux dire. Je veux dire que vous avez profité de la simplicité et de l'ignorance d'une jeune fille pour l'entraîner à avoir avec vous des entrevues secrètes, que vous avez osé traiter légèrement l'honneur d'une famille qui porte un nom honnête et bon à soutenir. « Je nie cela, » interrompit Philippe impétueusement. « Je n'ai jamais traité à la légère rien de ce qui pouvait affecter le bonheur de votre sœur. Je la respecte plus que vous ne pourrez jamais la respecter. Je donnerai ma vie pour elle. Ne me dites pas à moi de si fortes absurdités, monsieur. Prétendrez-vous que vous ne saviez pas que c'était lui faire du tort que de la rencontrer ici chaque semaine? Prétendrez-vous que vous aviez quelque droit à faire profession de l'aimer, même si vous étiez un mari convenable pour elle, quand ni son père ni le vôtre ne consentiraient à un mariage entre vous? Et vous, vous essayez de vous introduire dans les affections d'une jeune fille qui n'a pas 18 ans et que les malheurs de son père ont séparé du monde. C'est là votre belle notion de l'honneur, n'est-ce pas? Moi, je l'appelle de la vile tromperie. J'appelle cela tirer parti des circonstances pour obtenir ce qui est trop bon pour vous, ce que vous n'obtiendriez jamais par la loyauté. Il est digne d'un homme tel que vous de me parler ainsi, dit Philippe amèrement, et le corps agité par de violentes émotions. Les géants ont un droit immémorial à la sottise et à l'insulte insolente. Vous êtes incapable de comprendre seulement ce que je sens pour votre sœur. J'ai pour elle de tels sentiments que je pourrais même désirer être avec vous en termes d'amitié. Je serais bien fâché de comprendre vos sentiments, dit Tom, avec un mépris insultant. Ce que je veux, c'est que vous me compreniez, c'est que je prendrai soin de ma sœur, et que si vous osez faire la moindre tentative pour vous rapprocher d'elle, ou lui écrire, ou conserver le moindre empire sur son esprit, votre chétif et misérable corps, qui aurait dû mettre quelque modestie dans vos pensées, ne vous protégera pas. Je vous écraserai. Je vous exposerai à la risée publique. Qui est-ce qui ne rirait pas de vous voir, vous, devenir amoureux d'une belle fille? Tom, je ne le supporterai pas. Je n'en écouterai pas davantage, s'écria Maggie d'une voix convulsive. Restez, Maggie, dit Philippe, en faisant un violent effort pour parler. Puis, regardant Tom, vous avez traîné votre sœur ici, je suppose, afin qu'elle vous entendît me menacer et m'insulter. Cela vous a paru naturellement le meilleur moyen de m'influencer. Mais vous vous êtes trompé. Laissez parler votre sœur. Si elle dit qu'elle s'est engagée à renoncer à moi, au moindre mot d'elle, je me soumettrai à ses désirs. C'est à cause de mon père, Philippe, dit Maggie en l'implorant. Tom menace de tout dire à mon père, qui ne pourrait le supporter. J'ai promis, j'ai fait le vœu solennel, que nous n'aurions aucun rapport ensemble sans que mon frère le sache. Cela suffit, Maggie, je ne changerai pas. Mais je désire que vous vous considériez comme entièrement libre. Fiez-vous à moi. Rappelez-vous que je ne rechercherai jamais que le bien pour ceux qui vous appartiennent. Oui, dit Tom, exaspéré par cette attitude de Philippe. Vous pouvez parler de rechercher ce qui est bien pour elle et pour ceux qui lui appartiennent maintenant. Avez-vous recherché son bien auparavant? Oui, je l'ai fait. Avec quelques dangers, peut-être. Mais je désirais qu'elle eût pour la vie un ami qui pût la chérir, qui pût lui rendre justice mieux que le frère grossier et inintelligent sur lequel elle a toujours déversé son affection. Oui, ma manière d'être son ami est différente de la vôtre, et je vous dirai ce qu'est ma manière. Je l'empêcherai de désobéir et de déshonorer son père. Je l'empêcherai de s'abandonner à vous, de se rendre un objet de risée, d'être moquée, raillée par un homme comme votre père, parce qu'elle n'est pas assez bonne pour son fils. Vous savez assez quelle espèce de justice et d'amour vous lui prépariez. On ne m'en imposera pas par de belles paroles. Je puis comprendre ce que signifient les actions. Partons, Maggie. Il saisit le poignet droit de Maggie en parlant, et elle tendit sa main gauche à Philippe, qui la serra un instant, avec un regard ardent, et s'éloigna rapidement. Tom et Maggie firent quelques pas en silence. Il lui tenait toujours le poignet serré, comme s'il entraînait une coupable loin du lieu de son crime. Enfin, Maggie, par une violente secousse, retira sa main, et son irritation, suspendue et longtemps amassée, éclata en paroles. « Ne suppose pas que je pense que tu aies raison, Tom, ou que je me soumette à ta volonté. Je méprise les sentiments que tu as montrés en parlant à Philippe. Je déteste ta manière d'insulter lâchement à sa difformité. Tu as toujours blâmé les autres toute ta vie. Tu as toujours été persuadé d'avoir toi-même raison, et ce n'est que parce que tu n'as pas l'esprit assez grand pour voir qu'il y a quelque chose de mieux que ta propre conduite et tes propres vues étroites. Certainement, dit Tom froidement, je ne vois pas que ta conduite ou tes vues soient meilleures. Si ta conduite était bonne, ainsi que celle de Wakeham, pourquoi as-tu honte qu'on la connaisse? Réponds à cela. Je sais quel était le but de mes actions et j'ai réussi. Je voudrais bien savoir quel bien les tiennes t'ont procuré, à toi ou aux autres. Je ne cherche point à me défendre moi-même, dit Maggie encore avec véhémence. Je sais que j'ai eu tort, souvent, toujours. Mais parfois, cependant, quand j'ai eu tort, c'est que j'étais guidé par des sentiments qu'il serait mieux pour toi que tu éprouvasses. Si tu étais jamais en faute, si tu avais fait quelques promesses de très mal, je serais fâché de la peine que cela te causerait, et je ne désirerais pas que la punition t'accablât. Mais tu as toujours pris plaisir à me punir. Tu as toujours été dur et cruel pour moi. Même quand j'étais une petite fille, moi qui t'ai toujours aimé plus que personne au monde, tu pouvais me laisser aller au lit en pleurant, sans me pardonner. Tu es impitoyable. Tu n'as aucun sentiment intime de ta propre imperfection et de tes propres péchés. C'est un péché que d'être dur. Ce n'est pas digne d'un mortel, d'un chrétien. Tu n'es qu'un pharisien. Tu ne remercies Dieu que de tes propres vertus. Tu penses qu'elles sont assez grandes pour te gagner le ciel. Tu n'as pas même un aperçu des dispositions de cœur à côté desquelles tes vertus brillantes ne sont qu'obscurité. Bien, dit Tom avec un froid dédain, si tes sentiments sont tellement supérieurs aux miens, fais-les-moi voir d'une autre manière que par une conduite qui probablement nous déshonorera tous. Par tes élans ridicules, tantôt dans un extrême et tantôt dans un autre. Comment, je t'en prie, as-tu montré cet amour dont tu parles tant, soit pour moi, soit pour mon père, en nous désobéissant, en nous trompant? J'ai une manière différente de montrer mon affection. Parce que tu es un homme, toi, et que tu as la possibilité de pouvoir faire quelque chose dans le monde. Alors, si tu ne peux rien faire, soumets-toi à ceux qui peuvent. Aussi, je me soumettrai à ce que je reconnaîtrai et sentirai être juste. Je me soumettrai même à ce qui est déraisonnable, de la part de mon père, mais pas si cela vient de toi. Tu te vantes de tes vertus comme si elles t'avaient acquis le droit d'être cruel et de renoncer à toute dignité d'homme, ainsi que tu l'as fait aujourd'hui. Ne suppose pas que je voulusse renoncer à Philip Wakeham pour t'obéir. La difformité pour laquelle tu l'insultes me ferait m'attacher à lui et y penser davantage. Très bien, c'est là ta manière de voir les choses, dit Tom, plus froidement que jamais. Tu n'as pas besoin de rien ajouter pour me montrer quelle immense distance nous sépare. Souvenons-nous-en à l'avenir et taisons-nous. Tom se rendit à St. Ogg's pour être à un rendez-vous avec son oncle Dean et recevoir ses directions au sujet d'un voyage pour lequel il devait partir le lendemain matin. Maggie monta à sa chambre pour exhaler en larmes amères toute son indignation à laquelle l'esprit de Tom était si indifférent. Puis, lorsque le premier élan de cette colère inassouvie fut passé, il lui revint le souvenir du calme dont elle avait joui avant que le plaisir terminé par le malheur de ce jour eût troublé la pureté et la simplicité de sa vie. Elle était habituée, dans ce temps-là, à penser qu'elle avait fait de grandes conquêtes et gagné une position solide sur les hauteurs sereines, au-dessus des tentations et des combats de ce monde. Et la voilà de nouveau redescendue au milieu d'une épaisse et chaude mêlée, aux prises avec ses propres passions et avec celles des autres. La vie n'était donc pas si courte, et le parfait repos n'était pas si près qu'elle l'avait rêvé 2 ans auparavant. Il y aurait encore des luttes pour elle, peut-être encore des chutes. Si elle avait senti qu'elle eût entièrement tort et que Tom eût entièrement raison, elle aurait pu retrouver plus vite l'harmonie intérieure. Mais maintenant son repentir et sa soumission étaient constamment entravés par un ressentiment qui n'était à ses yeux qu'une juste indignation. Son cœur saignait pour Philip. Elle se remémorait les insultes qui lui avaient été jetées et elle concevait si vivement tout ce qu'il avait dû ressentir que c'était presque pour elle une douleur corporelle aiguë qui lui faisait frapper du pied le plancher et serrer ses ongles contre la paume de ses mains. Et cependant, comment se faisait-il qu'elle eut de temps en temps le sentiment intime, mais confus, d'un soulagement, résultant de cette séparation forcée d'avec Philippe. C'était certainement parce que la pensée d'être délivrée de ce secret était, malgré tout, un bien pour elle.